Et oui, vous avez reconnu le générique de Vendredi Théâtre. Il s'agit bien sûr de l'extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, le retour avec un Florent qui est sur une jambe, je le disais tout à l'heure, puisque pendant qu'il y en a qui s'occupent à glisser sur des pentes neigeuses, moi j'ai glissé sur le trottoir montpelliérain et donc je suis sur une jambe pour quelques semaines. Ça ne nous empêche pas d'aller au théâtre. Je suis avec les chroniqueurs de Vendredi Théâtre. Je suis avec Grazia, la belle Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et je suis avec l'inénarrable Tito. Bonjour Tito.
Bonjour.
Bonne année à tous, bonne année théâtrale à tous. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Donc bonne année théâtrale 2013. Et on va commencer tout de suite sur des chapeaux de roue avec un spectacle qui se déroule à Pierre-Tabar, un spectacle qui s'appelle West. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage, je vais essayer de ne pas écorcher les noms, de recevoir Hélène Grange. Bonjour.
Bonjour.
Léo Bégin.
Bonjour.
C'est bien comme ça qu'on dit.
C'est ça.
Et Guillaume Vérin.
Bonjour.
Bonjour. Alors, West, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de « À l'Ouest, rien de nouveau » de Éric Maria Remarque. Alors, pourquoi avoir adapté, parce qu'au départ, ce n'est pas un texte de théâtre, c'est un roman, pourquoi avoir adapté ce texte sur la scène ?
Alors, le spectacle s'appelle « West », donc c'est effectivement l'adaptation d'À l'Ouest, rien de nouveau. C'était vraiment un point de départ, ce roman. C'était un souvenir que j'avais. J'avais étudié l'œuvre au collège. Avec Guillaume, avec Guillaume Vérin ici présent, on avait réfléchi, il y a un bon moment maintenant, à créer une œuvre qu'on pourrait justement jouer en milieu scolaire. Et on avait pensé à cette œuvre-là qui nous avait marqué tous les deux. Donc le point de départ, c'est ça. Après, il y a eu tout un travail d'adaptation textuelle, puisqu'effectivement, c'est un roman et c'est pas du tout évident de passer du récit à la scène. C'est pas du tout les mêmes énergies, c'est pas les mêmes enjeux non plus. Donc, on a entrepris un gros travail de dramaturgie à ce niveau-là. Et puis, ça donne finalement West, qui nous appartient, qui est vraiment une forme qu'on s'est complètement appropriée, qui a donc comme point de départ À l'Ouest, rien de nouveau, comme propos À l'Ouest, rien de nouveau. Mais qui est devenu le spectacle que vous viendrez voir, j'espère.
Moi, je ne l'ai pas encore vu, c'est vrai. C'est Tito et Grazia qui l'ont vu.
Voilà.
Alors, Éric Maria Remarque, donc c'est un roman extrêmement important qui est paru en Allemagne dans les années 20, un roman pacifiste et qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, qui a d'ailleurs été l'un des premiers à avoir subi les autodafés en 1933. Et c'est un roman militant contre la guerre.
Effectivement. Voilà.
Qui décrit vraiment l'horreur de ce qu'a été la guerre de tranchées, la guerre de 14-18.
Effectivement, et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aborder quand on est un écolier français, c'est l'endroit où on se trouve. Mmh. Et ce qui nous semblait très intéressant d'abord, c'est vrai, c'était le point de vue allemand. Parce que quand on étudie l'histoire à l'école, on est toujours de son propre côté. Et dans ce roman-là, c'est vrai qu'on oublie en fait où on se trouve. Et puis soudain, on a le protagoniste qui nous dit « Tiens, je vois des soldats en face de moi qui nous mitraillent, ce sont des Français. Paf !» Et on se souvient soudain qu'effectivement, on est du côté allemand et que c'est absolument similaire. C'était ça qui nous intéressait aussi beaucoup.
L'horreur est la même des deux côtés. D'ailleurs, il y a un autre roman qui fait un peu le pendant à « L'Ouest, rien de nouveau », c'est le roman de Dorgelès, « Les Croix de bois », qui explique exactement la même chose, en fait, sur l'horreur de ce qu'a été la guerre de tranchées, la guerre de 14-18.
Effectivement, ce qui nous a intéressé, c'était de pouvoir parler de cette horreur-là comme étant une chose universelle, des deux côtés, et une chose surtout traduite par un œil jeune, cet œil de jeune soldat, allemand, qui nous a semblé être un protagoniste très intéressant, encore une fois, pour pouvoir transmettre ça en établissement scolaire auprès d'un public jeune, mais pas que. Hein. On joue à Pierre-Tabar pour le tout public. Mais c'est vrai que c'est tout autant d'arguments qui m'ont donné envie de travailler sur cette œuvre.
Et en fait, Éric Maria Remarque, c'est un auteur extrêmement important. On connaît que ce roman-là, pratiquement de lui, mais il écrit beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment un auteur à redécouvrir. Il y a un style, il y a une plume, il y a une écriture.
Qui n'est pas facile à traiter d'ailleurs, effectivement. Je le rappelle encore, comme je le disais tout à l'heure, ça a vraiment été un point de départ. Et à la fois, je me souviens quand j'étais jeune, jadis, et que j'avais découvert ce roman-là, j'avais été frappée en fait par l'immersion qu'on ressent quoi. Quand on découvre cet écrit. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les profs y ont recours souvent. On est vraiment à l'intérieur. On est à l'intérieur de la chose guerre. On est dans une anatomie de la guerre. Et puis à la fois, on est dans un phénomène organique de ce jeune homme. Enfin voilà, il y a vraiment d'un palpitant à l'autre. Il y a un véritable lien.
En fait, c'est tout le parcours donc, d'un jeune homme qui va découvrir la guerre, mais il y a aussi le passage qui est avant, c'est-à-dire, il parle aussi de la propagande qu'il y avait pour la guerre dans les collèges.
Il y a énormément d'aspects qui sont abordés dans l'œuvre. Nous, on a vraiment choisi le nôtre. Voilà, qui était effectivement de parler de cette anatomie de la guerre, d'une profonde violence projetée comme ça dans la vie d'enfants, quoi, presque 18, 19, 20 ans, et comme une chose qui allait marquer leur vie, enfin s'ils avaient la chance de la vivre après cet épisode sanglant.
C'est vrai qu'on oublie souvent que la guerre 14, ça fait à peu près 10 millions de morts.
C'est énorme.
Si je ne me trompe pas, ce qui fait une moyenne de 6 000 morts par jour.
Voilà.
Ce qui est assez impressionnant.
Vous laissez imaginer, effectivement.
Je vais me tourner maintenant vers les comédiens qui interprètent donc la pièce. Donc, comment est-ce que vous avez abordé, vous, ce roman, cette adaptation ? Qui veut se lancer ? Il y a un blanc.
C'est une bonne question. bon, nous, on s'est un peu laissé emmener aussi par Hélène et l'univers, l'interprétation qu'elle a voulu en faire aussi. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est la deuxième fois qu'on travaille sur l'adaptation d'un roman là, avec Hélène. On avait fait Claude Gueux là, de Victor Hugo. Oh. Donc, c'était un peu une nouvelle, voilà. Donc, c'est vrai que c'était un peu une démarche similaire, si je puis dire, d'adapter sur scène quelque chose qui est de l'ordre du récit, hein, donc du roman. Et c'est vrai qu'au niveau du jeu de comédien, il y a une vraie recherche qui est très intéressante parce que ce n'est pas du tout évident. Effectivement, il y a bien quelques dialogues, mais il y a aussi beaucoup de récits descriptifs, d'ailleurs, que porte beaucoup Léo. Et donc il faut les jouer, hein. Il faut éviter de retomber dans ce récit, donc ça a été un gros travail quand même, hein. C'est pas évident, hein, quand on a un récit, des scènes de description, de pas tomber sur un ton récité, quoi. Donc ouais, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Ça change un peu de ce qu'on peut faire en théâtre aussi d'habitude. Et donc c'est assez riche, rien que pour le travail du comédien, ouais. C'est un aspect très intéressant.
C'est vrai que ça a été une démarche assez différente de ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il y a effectivement la plume de Remarque comme ça qui fait que on pourrait rapidement tomber dans quelque chose de verbeux, de narratif, et c'était un gros travail de plateau pour éviter de tomber là-dedans. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là.
Alors Tito Grazia, vous avez vu le spectacle hier. Qui veut intervenir ? Qui veut commencer ? Allez Tito.
Alors il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, c'était incroyable. J'ai lu ça il y a bien 25 ans et j'ai reconnu des passages. Déjà, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui marque, le roman de Remarque. Moi, j'ai lu d'autres choses de Remarque. Mais c'est vrai que à l'Ouest en nouveau, c'est quand même quelque chose qui restera pour l'éternité, quoi. Parce que toutes les guerres, quand on a connu des gens qui ont participé à des guerres, n'importe lesquelles, c'est toujours ça rappelle toujours un peu ce qu'il décrit. Hein, les soldats, et même aujourd'hui, s'ils sont plus conscrits, je crois que quand on va à la guerre, c'est toujours fruit de propagande, de mensonges, de tromperies, d'idées fausses. Et le théâtre de guerre montre tout de suite, et très vite montre que tout ça c'est faux et qu'on n'a rien à faire là. Et le mec, il prend une balle voilà, et c'est con. C'est très con, mais c'est un drame puisque c'est une vie humaine et c'est sa vie, il n'y en a qu'une. Voilà, et l'autre qui est à côté, ça le saisit. Et tuer quelqu'un, c'est toujours horrible. Horrible. Et donc, c'est un drame qui emportera toute sa vie, le fait d'avoir tué quelqu'un. Et en plus, dans la Première Guerre mondiale, on ne tuait pas quelqu'un, on tuait beaucoup. Ou alors, on voyait tuer beaucoup. Et ça, c'est très bien dit. Après, par rapport à... Il y a une chose qui m'a frappé dans le roman, mais que je crois que aussi dans Les Croix de Bois, parce que moi, je n'ai vu que l'adaptation film.
Les Croix de Bois. Charles Vanel.
Mais je crois qu'il n'y a jamais, du moins dans Remarque et dans le film, il n'y a jamais un mot contre le camp adverse. C'est-à-dire les mecs, ils se respectaient, quoi. Ils voyaient mourir ses camarades, donc ils ont quand même pris bien conscience qu'ils étaient tous dans le même merdier, quoi. Et ça, c'est davantage encore quelque chose de très beau. Et je crois que c'était la première fois qu'on faisait ça. Je crois que c'est après la Première Guerre mondiale, c'est la première fois qu'on a écrit des romans où on ne disait pas du mal de l'adversaire. Voilà. Mais quand on va dans les tranchées, on voit qu'ils étaient juste à côté, hein. Ils se voyaient.
Mais des fois, ils prenaient même le café ensemble avant de partir. Voilà. Se foutre sur la figure.
Ils se lançaient des clopes, par exemple.
Grazia, un petit mot. Prends le micro. Tu partages le micro avec Tito, je précise, pour nos auditeurs.
Voilà. Donc je m'approche, excusez-moi. Voilà. Donc contrairement à Tito et à Florent, je n'avais pas lu le roman. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, d'ailleurs, parce que à mon époque, les jeunes filles ne lisaient pas de romans de guerre. Donc voilà. Alors, lorsque je me suis retrouvée dans le théâtre et que la pièce a commencé, déjà, j'ai été complètement... surprise. J'étais vraiment très. Je me suis interrogée déjà sur la mise en espace. Avec ces trois néons posés au sol, avec Monsieur Béjean, qui fait. Donc Paul, qui est par terre et tout ça. Et je me suis dit, mais attends, mais on est dans un hôpital psychiatrique ou quoi, là? Donc, parce que effectivement, c'est d'une telle force, d'une telle violence que bon, j'ai pas fait la relation avec la guerre. J'ai fait la relation plutôt avec le monde de la folie, quoi. Et puis bon, la guerre, c'est la folie. C'est la folie des hommes, souvent moins des femmes, peut-être. Et ça m'a déjà énormément impressionnée. Et puis bon, j'ai suivi petit à petit et j'étais scotchée sur le fauteuil, je dois dire, parce que c'est vraiment un univers très très violent et la guerre, c'est quelque chose d'abominable. Et on voit très bien que ce jeune Paul, il est complètement dépassé, comme tous ces jeunes gens qui ont été enrôlés à l'époque pour une cause qui n'est pas la leur, par des gens qui, ça se trouve, ils sont même pas allés au front et qui se rendent très vite compte, c'est ça qui est incroyable, parce qu'ils ont justement, comme disait Tito, rien à faire là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a le coussin rouge qui m'a fait penser au sang. Enfin, ça m'a beaucoup impressionné, ça, je dois dire.
On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver. Eh bien, j'ai choisi Georges Brassens, La guerre de 14-18.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre, non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Et oui, la guerre de 14-18 sur Divergence FM, il s'agissait bien sûr de Georges Brassens. Nous sommes avec l'équipe de Ouest qui se joue actuellement à Pierre Tabar. Je suis avec Hélène Grange, Léo Bégin et Guillaume Vérin. Donc pour nous parler de ce spectacle Ouest d'après À l'Ouest, rien de nouveau de Éric Maria Remarque. Éric Maria Remarque, donc moi c'est un écrivain que j'aime bien, qui est un petit peu oublié, dommage maintenant, et qui a écrit tout un tas de... Il a écrit une dizaine de romans, si je ne me trompe pas. Le plus célèbre, bien sûr, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, mais il a écrit tout un tas d'autres romans aussi contre le fascisme, contre le nazisme. Il a eu une vie un petit peu bizarre et qui raconte dans ses romans. Il parle de l'après-guerre en Allemagne, il parle des exilés allemands, etc., etc. Donc c'est une œuvre à redécouvrir, dont une partie est traduite par Michel Tournier. Grazia, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au spectacle?
Oui, ce que je voulais dire aussi, une scène qui m'a énormément bouleversée, c'est lorsque, lors d'une permission, il rencontre sa mère. Et finalement, sa mère, elle fait aucun commentaire. Elle dit simplement, je comprends, je... Hein, c'est...
Elle est complètement dépassée par ce que peut vivre son fils, quoi. Et d'ailleurs, c'est très dur, hein, pour son fils, hein, de retrouver cette réalité-là. Ça le renvoie, au traumatisme, j'imagine, qui risque de, enfin, du moins au souvenir qu'il va garder après, enfin, tout ce qu'il va garder en lui. Donc c'est vrai que c'est une scène qui est intéressante, parce qu'il dit je n'aurais jamais dû retrouver ma mère, j'aurais jamais dû venir en permission. Il le regrette, voilà, terriblement, parce que c'est trop dur. C'est terriblement dur, ça le ramène à une réalité des gens qui voient ça de l'extérieur, alors que lui, il est dedans, il a accepté presque la mort, il a accepté presque cette réalité. Et non, c'est intéressant ce passage.
Effectivement, ça pose la question de qu'est-ce qu'on sait du conflit, quand on est un petit peu en recul comme ça, qu'est-ce qu'on entend dire du conflit? Il y a toute une partie d'ailleurs dans le roman que j'ai grandement écourté, mais il faut vraiment lire ce roman parce que c'est une analyse qui est fascinante justement sur les différents postes que toute cette société tient en période de conflit. Et nous, ça fait évidemment écho à qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui de la Première Guerre mondiale. On s'approche du centenaire, là, en 2014. Bon, c'est pas pour ça qu'on a créé le spectacle, hein. Le spectacle existe depuis une bonne année maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Quelle est la déformation qui est faite? Quelle est la transcription qui est faite du conflit? Que ce soit les commémorations gouvernementales, la question de la mémoire. Comment est-ce qu'on parle d'un conflit et qu'est-ce qui nous en reste? Il y a d'ailleurs une scène tout entière qui a été écrite et insérée par nos soins dans le verbe de Remarque, dans la deuxième partie de la pièce, qui interroge ça. C'est une espèce de pièce de scène didactique qu'on a écrit et qui pose cette question-là. Voilà, avec les mots d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est tellement loin de moi, comment tu veux que ça me touche? Voilà, cette scène-là, moi j'y tenais beaucoup, parce qu'en intervenant beaucoup en établissement scolaire avec Guillaume, on rencontre beaucoup les jeunes et on reçoit comme ça leurs réactions sur leur rapport à l'histoire. Donc on avait vraiment envie d'ajouter une passerelle de plus au-delà de tout ce que ce propos peut faire résonner en nous, voilà, de leur proposer une scène qui les raccroche directement sur des choses qu'on a pu entendre, quoi. En quoi ça me parle, j'en ai rien à faire, ça me regarde pas, ça me concerne pas. Voilà, comment est-ce qu'on se souvient de ça, de cette guerre.
Je vais vous demander maintenant, parce que je vois que l'heure tourne, si on pouvait avoir un ou deux petits extraits du spectacle, si c'est possible.
C'est possible. Nous avons préparé ça avec Léo. Donc on va faire on va pas faire de commentaires, on va rentrer dans l'extrait directement. Ça
Allez,
va, Léo,
c'est ouais. parti.
Ouais.
Allez.
Je suis assis près du lit de Kemmerich. Le médecin passe juste à côté de lui, il ne le regarde même pas. Ce sera pour la prochaine fois, Franz.
Ils m'ont amputé.
Ah, sois donc heureux de t'en être tiré comme ça. Ça pourrait être les deux jambes, et puis Franz Wegler a perdu le bras droit, c'est beaucoup plus mauvais. Tu rentreras chez toi?
Crois-tu?
Naturellement.
Crois-tu?
Sûrement, Franz, sûrement. Seulement, il faut d'abord que tu te remettes de l'opération.
Je ne le crois pas.
Ne dis pas de bêtises, dans quelques jours tu t'en rendras compte toi-même, mais qu'est-ce qu'une jambe en moins? Ici, on répare des choses beaucoup plus graves.
Regarde-moi ça, ces doigts.
Ça vient de l'opération. Mange bien et tu te remettras. Franz, êtes-vous bien nourri? Il faut que tu manges, c'est le principal.
Autrefois, je voulais devenir officier forestier.
Mais tu le peux encore? Il y a maintenant des appareils de prothèses magnifiques. Avec eux, tu ne t'aperçois même pas qu'il te manque un membre, ça se raccorde parfaitement avec les muscles.
Tu peux prendre mes bottes pour Müller.
Merci beaucoup pour ce petit extrait, je vois que l'heure tourne. On va rappeler qu'il s'agit donc du spectacle West qui se déroule à Pierre-Tabar. Alors au niveau des horaires, donc c'est à 19h, c'est jusqu'à dimanche et le dimanche c'est à 17h.
C'est ça.
Je ne me suis pas trompé. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. Et bien comme petite pause musicale, on va passer du Marianne Oswald. Vous savez que j'adore Marianne Oswald, le chant des canons.
Jim et l'autre c'était John, leur sergent c'était George Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, si l'on marche, tout va bien. Le canon tonne, nos paraisons. Soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blond ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Et Jimmy avait le ventre bien malade. Alors George, il est pris par les bras. Tous les trois, on avancera ou on crèvera. Oh, oh, oh. Vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Jim fut tué, John a trouvé la mort. Georgie de son dernier sommeil d'or. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. Le canon tonne, non pas raison. Soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir.
Nous continuerons en souvenir de tous ceux qui sont morts pour notre cause.
93.9.
Non, non, il y en a assez de la guerre.
Divergence FM.
Je refuse de crever.
What is it good for?
Nothing is new, our children, under the sun. Got blood still a spill, and them war still a run.
War still a run.
It's a war on all the ocean, war on all the soul. It's a war on all the east and war on all the west.
À cause de la guerre, les hommes de 20 ans n'aiment plus les bateaux, ni les horizons, ni la mer. ni les mots étonnants qui fleurissaient en rêve de voyage autrefois, à cause de la guerre.
Divergence FM, le 93.9, vous êtes dans l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de théâtre tous les vendredis en direct. Deuxième plateau, nous allons parler de Molière avec les 10 meilleures façons de rater Molière, un spectacle qui se déroule au théâtre Pierre Tabar. Et je suis avec Dominique Ratona, bonjour.
Bonjour.
Et Didier Chex.
Bonjour.
Alors, les 10 meilleures façons de rater Molière. C'est vrai que j'ai vu des tas de façons de rater Molière depuis que je vais au théâtre, mais là c'est un petit peu une synthèse quand même.
Ben oui, c'est ça, c'est un ramassis. voilà, ouais, on s'est amusé, mais c'est vrai que surtout quand on joue, surtout quand on répète aussi, on prend des fausses pistes, on rate des trucs et on s'est dit tiens si on prenait les choses à l'envers justement, puisque quand même en général un spectacle on essaye de réussir, mm-hmm. Là si on essayait de rater, voilà, ça nous entraînait dans des aventures. Farfelu et très sympathique.
Alors il y a une dizaine de grandes scènes de Molière que vous ratez allégrément. Hein, il y a un extrait du Misanthrope, il y a l'école des femmes, il y a les fourberies de Siapin et j'en oublie.
L'avare, ouais, il y a un peu les grands classiques. On est parti un peu sur les scènes les plus connues parce que du coup les gens c'est des scènes que vraiment les gens connaissent, la scène de Scapin que diable a-t-il faire dans cette galère. Donc les gens ont des références, donc on peut s'amuser d'autant plus et prendre de la distance avec les scènes, d'autant plus que les gens les connaissent. Voilà.
Alors, sur les façons de rater Molière, comment est-ce qu'on peut rater ? Il y a d'abord, à un moment, il y a l'éclairage qui ne marche pas, qui ne correspond pas, il y a la bande-son qui ne marche pas, il y a les décors qui arrivent en retard, il y en a un qui s'est trompé de chaussures, donc ça perturbe complètement la scène. Il y a aussi un moment, c'est pour la scène de « Qu'allait-il faire dans cette galère ?», ceux qui commentent de manière très professorale, et ça casse complètement le truc. Donc, il y a à chaque fois une façon différente de rater Molière.
Voilà, oui, on a essayé de trouver des façons différentes. On est parti sur le principe, en fait, ces quatre comédiens qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent réussir un beau spectacle avec des extraits de Molière. Et puis, en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui rate. Alors, où ça vient de leur fait, c'est-à-dire que c'est un choix, un parti pris qui n'est pas très bon et qu'ils essayent de mener quand même jusqu'au bout et qui est en décalage avec la scène. Donc, voilà, ça fait des écarts qui deviennent un peu drôles. Ou c'est un peu des accidents ou des erreurs. Ou, voilà, on a pris effectivement. On voulait pas qu'il y ait une seule façon de rater. De toute façon, il y en a pas qu'une, il y en a plein. Donc, il a fallu piocher. Enfin bon, c'était pas évident, mais on s'est amusé avec ça. Oui, différentes façons, voilà, de se planter, quoi, du bide. Enfin, pas du bide. C'est le côté clown aussi. Le clown qui rate toujours les trucs. Et en même temps, il faut qu'il réussisse quelque chose. Mais voilà, il y a un côté clownesque aussi.
Gradia, tu as revu le spectacle avec moi hier, tu riais
oui,
beaucoup.
Oui, heureuse de m'être embarquée dans cette galère d'ailleurs. Franchement, j'ai passé un très très bon moment et je me suis interrogée un petit peu. Vous, c'est très visuel hein, votre spectacle, c'est plein de...
Oui.
Mais ce que je voulais, vous avez, il y a un texte écrit hein, où vous êtes parti d'un canevas comme la Commedia dell'arte.
On a improvisé pas mal.
Ah voilà, hein, c'était inévitable,
le,
non?
Le texte principal quand même, c'est les scènes de Molière. Mmh. Mais c'est vrai qu'autour, il y a des présentations, enfin il y a des interscènes où là on est parti effectivement d'improvisation.
Oui, c'est le principe. Le principe était qu'on se demandait comment quatre comédiens et une comédienne pleine de bonne volonté. Plein de bonne volonté, veulent monter un spectacle réussi et ils le ratent, quoi. Donc c'était un peu... Ce qui fait que... et c'est vrai que c'est un peu... Oui, on a travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit quelle est l'histoire de ces quatre personnes ? Donc tout ce qui est inter-scène et tout ce qui n'est pas écrit par Molière, c'est joué et improvisé par nous parce qu'on l'a improvisé en répétant.
Oui, d'ailleurs, moi j'ai vu la pièce, c'est l'année dernière aussi. Bon, il y a quelques différences.
Voilà, on se donne un peu de liberté. Bon, après, il faut qu'il y ait un peu des repères pour savoir, pour que les autres sachent où les autres en sont, quoi.
Ouais.
Oh, la belle phrase.
Oui, c'est pas Molière, ça.
Une phrase un peu ratée, là.
Oui, c'est vrai.
Enfin, bon.
Voilà comment on peut rater même une phrase.
On a raté l'interview aussi.
On est un peu spécialiste du ratage.
Oui, c'est vrai.
C'est peut-être là qu'on réussira le mieux.
Mais est-ce qu'il y a des moments où on rate le ratage?
Alors, oui, tout à fait.
Oh, la question.
Non, mais c'était amusant. C'était pendant qu'on répétait, surtout. C'est très amusant. On a vraiment pris plaisir à répéter ça, parce que c'est étrange de prendre des choses à l'envers, mais des fois, ça nous mettait effectivement dans des situations. C'est-à-dire qu'on se disait, ah tiens, on pourrait faire ça. Et puis on se disait, ah ouais, mais non, mais ça, c'est vraiment une bonne idée, ça. Ça, c'est une trop bonne idée. Donc, on ratait le ratage. Donc, il fallait trouver une bonne idée, mais...
Et puis, à l'arrivée d'un autre...
Une bonne, mauvaise idée. On devient un peu schizophrène avec ça, ce genre de spectacle. Et puis,
par rapport à l'année dernière, il y a un changement, non ? Il y a un autre comédien, oui, qui est arrivé, donc voilà. Je suppose que...
Il y a un changement de comédien, oui, ce, ouais, qui fait que, bah, répétition, pas même énergie, donc retravail. Non, mais on est en train de penser. Enfin, moi, je suis en train de penser que si on le proposait une troisième fois, je pense que ça sera encore différent. Mmh. C'est-à-dire qu'on tourne autour. Il y a tellement de matière qu'on peut tourner autour de Molière de plein de façons. Donc, c'est vrai qu'avec un nouveau comédien, bah, lui, il a amené d'autres choses.
Oui,
il a amené son énergie à lui, il a amené d'autres propositions, d'autres, voilà, envies, donc on s'en est servi, bien sûr. Parce que...
Comme c'est un travail assez collectif, on voulait pas simplement lui dire de venir et puis prendre les traces, de se mettre dans les traces de Mathieu Pinchina, et donc Philippe Baron, en plus qui est très créatif aussi, voilà, a mis sa patte à lui aussi dans le spectacle.
Bah, on était surtout vigilants, quoi. Quand il réussissait trop, on lui disait non, faut rentrer.
Non, t'es trop bon, là, t'es trop bon, ça va pas du tout. Tito.
Moi, à ce propos, je dirais comme Marie Chantal, on se croirait à la Comédie Française.
Alors ça, on ne l'avait encore jamais dit, mais c'est
vrai. Ou à Étoile 7 aussi, avec Pierre Morin. Mais bon, c'est pas grave.
Non, mais... la Comédie Française, ils étaient... Bon, c'était pas pendant les représentations, mais enfin, ils étaient... ils sont quand même amusés à des trucs... Je sais pas, je repense à... C'est ce numéro que faisait Robert Hirsch avec...
Jacques Charon.
Oui, de danse, oui. qui était quand même un monument d'amusement et de ratage. Il ratait, mais il réussissait. C'était fou, quoi, cette scène de danse-là.
C'était,
on
n'est
pas capable de faire
ça.
Oui, c'était... Oui. Et oui, c'était en 1960 et quelques, évidemment. Tout le monde ne s'en souvient pas.
Ah, mais je crois que j'ai vu ça, parce que ça a été enregistré pour la télé.
Oui, c'est repassé.
Voilà, comment je le connais.
Alors, c'est un spectacle, pardon.
Non, je t'en prie, la Comédie Française, oui, quand c'est raté.
Ça leur arrive,
oui,
hein,
parce qu'on nous on s'est servi de ça aussi. C'est qu'on a tellement vu de metteurs en scène ou d'acteurs ou de comédiens ou de comédiennes qui veulent tellement réussir quelque chose de soi-disant nouveau, d'innovant, de choses comme ça. Je dis soi-disant parce que parfois, souvent c'est réussi quand même, c'est pas le problème, hein. Mais on a tellement bonne volonté de proposer quelque chose, une nouvelle lecture, un dépoussiérage, quelque chose de formidable. Et puis parfois c'est tellement raté que ben nous on s'est servi de ça, bien sûr, quoi.
Bah, le problème des classiques, c'est qu'on, d'abord, on ne sait pas du tout comment ils étaient joués. Aucune idée. Personne ne vient de nous donner de leçons là-dessus, parce que le fait est qu'on ne sait pas. Mmh. Et c'est tant mieux, justement.
Oui, les enregistrements ont été perdus.
Oui, mais ça permet aussi du n'importe quoi.
Oui, oui. Bah, parfois, c'est n'importe quoi dans des grandes structures. Et là, c'est une petite structure et c'est encore plus n'importe quoi.
Et là, ce qui nous a fait plaisir l'an dernier, cette année, je ne sais pas, on n'en a pas encore prévu, mais on espère qu'il y en aura. Il y a des classes aussi, ouais, des élèves qui sont venus l'an dernier. Et que ce soit des petites sections, 6e, 5e, enfin collège quand même, pas la maternelle. Mais 6e, 5e ou seconde, ils ont adhéré et adoré. Oh, c'est bien ça.
Oui. c'est pas raté. Aussi,
ça, c'est
trop réussi.
et ça, on était contents parce que... Et les profs aussi ont trouvé ça très bien, parce qu'il y avait presque un côté pédagogique, parce que bon, comme ça, ils survolaient, ils voyaient plusieurs scènes, ils avaient comme ça des extraits de plusieurs scènes de Molière, donc ça leur faisait déjà un petit aperçu. Ouais. Et puis, il y a du jeu, c'est ludique, on s'amuse beaucoup, et les spectateurs voient qu'on s'amuse aussi. Donc,
voilà. Ça a même donné une idée à des professeurs qui sont venus nous voir, effectivement avec leurs élèves, de proposer aux élèves de réécrire les scènes alors comme ils ont envie de les écrire eux. C'est-à-dire qu'ils ont ça leur a donné cette idée-là. Bon, c'est une bonne idée, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les scènes sont écrites par Molière, très bien, ok. Mais qu'est-ce qu'on peut dire maintenant avec d'autres mots, comment on peut dire la même chose avec d'autres mots. Et ils ont fait ce travail-là, effectivement, en classe, en ayant vu notre spectacle. Donc, on a au moins.
C'est bien.
Mais ça, on l'a réussi, c'est dommage. Parce que ça veut dire que c'est pédagogiquement, il y a quand même, bon, sans aller plus loin que ça, mais il y a quand même, on apporte une petite pierre à la vision, une vision de Molière qui peut être différente, et en tout cas que c'est les élèves qui sont venus nous voir, le débat qu'il y a eu après était très intéressant parce qu'ils ont découvert Molière.
Oui, parce que c'est
mais
très
tout
vivant.
Tout est permis de toute façon. Toretton avait fait, je l'ai vu qu'en vidéo, mais une version absolument géniale de Fourberie de Scapin, mais en le jouant dramatique. Voilà, il a dit pourquoi pas le jouer tragédie. Et ça marche, hein. Ça marche. Peut-être que c'était joué comme ça, d'ailleurs, on n'en sait rien, parce qu'on n'y était pas. Hein, on n'était pas là au XVIIe siècle.
T'as pas tort. De toute façon, après toutes les versions, moi j'ai joué Scapin, on a tous joué Molière, moi j'ai joué 250 fois, donc Scapin, je connais bien. Et c'est effectivement, par exemple, la présentation que j'avais joué à Paris, Daniel Auteuil était venu nous voir juste après, et on l'avait vu à Avignon juste après, et lui proposait une version plutôt dramatique aussi. Molière, Scapin est un personnage qui a été vraiment aux galères, qui a vraiment souffert, et c'est pas voilà. Alors après, on peut en proposer une version dramatique, mais tout est vraiment possible. Après, bon, dans le dramatique, on peut aussi se planter, hein. On peut aussi se tromper. Voilà.
Il faut rappeler aussi, on le fait d'ailleurs dans le spectacle, que quand Molière a créé Scapin, il a raté parce qu'il s'est pris un bide retentissant. Il a joué 4-5 fois et puis ça marchait pas, il a arrêté tout de suite. Ça a été un succès, cette pièce est un des plus grands succès de Molière, que après sa mort, parce que ça a été repris, c'est une des pièces qui a été les plus reprises, entre autres à la Comédie Française, mais quand Molière l'a joué, il a raté.
Ah, et comment vous le ratez, vous, les Fourberies de Scapin?
Eh bien, on peut le dire, on le dit.
Oui.
Ouais. Non, c'est-à-dire qu'on a voulu faire, comme c'est une scène très connue, très très vivante, très sur les humeurs, sur le jeu. On s'est dit, tiens, si on faisait quelque chose de très très sobre, c'est-à-dire carrément en lecture, avec des commentaires qui sont un peu les commentaires des petits Larousse, des petits classiques Hachette. Et puis que finalement, c'était un peu une critique du façon justement dont on, des fois on essaye d'apprendre le théâtre aux élèves justement. C'est-à-dire que des fois c'est ahurissant les questions qui sont posées, alors que il y a pas le théâtre, enfin surtout pour des enfants, je trouve c'est pas le plus intéressant, c'est pas d'analyser le texte en long, en large et en travers, c'est de le faire vivre. Et donc là, il y a deux comédiens qui essayent de faire vivre le texte, plus ou moins, et puis il y en a d'autres qui cassent le truc en faisant des commentaires plus ou moins intéressants, qui petit à petit prennent le pas même sur le sur la lecture.
Voilà. Voilà.
c'est du vécu, parce que c'est du vécu dans le sens où moi par exemple j'ai vécu des galères pas possibles, c'est le cas de le dire, c'est pour ça qu'on l'a mis dedans avec des professeurs de français qui s'intéressaient beaucoup plus aux notes en bas de page qu'au texte. C'est-à-dire que ils nous bourraient le crâne avec ça, mais l'étude de texte se faisait pas, dommage.
C'est comme la poésie. Il faut apprendre la métrique. Ça fait partie de la culture générale, et quand on a 15-16 ans, il faut quand même l'apprendre, parce que ça fait partie de la vie et de le savoir. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que ce serait comme analyser Victor Hugo en pensant qu'à la grammaire.
Oui, tout à fait.
C'est pas ça la poésie. La poésie, ça n'a aucun rapport avec ça, avec la métrique. Ça, ou des choses comme ça. Ou regarder la rime, elle est croisée. Une fois. Hein, pour montrer, puis c'est bon, on passe à autre chose.
Non, après dans le théâtre, la petite différence qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, tout se passe aussi beaucoup dans le corps. Et que si on ne le fait pas passer par le corps, ça ne marche
absolument pas
beaucoup. Donc c'est vrai que c'est tout ce qu'on a appris en cours de français en s'emmerdant royalement, parce que rien ne passait par le corps. Donc on était toujours sans faire des choses formidables. Mais c'est pour ça que les élèves, quand ils sont venus nous voir, ils ont bougé avec nous. Ils se sont aperçus que Molière, ça bouge aussi, quoi.
Surtout que des fois, Molière, il est un peu fatigué. Et l'Alexandra, ça fait au moins trois personnages. Hein. oui, non, peut-être, etc. et bon, si on va par là, le premier qui dit, mais c'est nul ce truc. et si on va par là, effectivement, c'est nul. Sauf que ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça, parce que c'est quelque chose de vivant.
Alors, je pense quand même que ça s'est amélioré quand même la façon d'étudier le théâtre au collège et au lycée. Mais j'en profite, tiens, puisque nous sommes là, j'y pense pour lancer un appel aussi, parce qu'on est tout à fait d'accord, nous, pour venir jouer ce spectacle, même si, bon, s'il y a une salle qui s'y prête, mais dans les lycées ou les collèges, pour les élèves. Et je suis sûr que ça leur fera plaisir.
Ah oui, oui.
Et nous aussi.
Mais c'est vrai que Molière, ça a été l'un des auteurs, moi j'ai des souvenirs d'écoliers, l'un des auteurs que l'enseignement a le plus abîmé quand même. Moi j'ai beaucoup souffert quand on m'apprenait Molière, et j'en ai encore gardé des séquelles, j'ai du mal à voir une pièce de Molière, tellement on me l'a abîmé quand j'étais à l'école.
C'est vrai.
C'est international. En Espagne, personne n'aime Cervantes, au Portugal, personne n'en aime Essa de Queiroz, et en France, il y a une bonne partie qui n'aime pas Molière.
Parce qu'on les considère comme, c'est le mot classique qui fait peur à tout le monde. Dès qu'on dit classique, c'est ringard, poussiéreux, ça ne veut plus rien dire. Donc c'est vrai, c'est ça qui fait peur. Après, effectivement, c'est quand même daté, c'est d'une époque, d'accord, mais ce qui est dit dedans, de toute façon, sans reprendre les éternels mots, c'est d'époque, machin, parce que c'est pas vrai, c'est pas la même époque, mais en tout cas, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est cheminement de la pensée, c'est la même chose. Mmh. Après, bon, c'est pas la même époque, c'est tout. Évidemment que ça existe.
Il y a des bouquins qui sont des bouquins historiques, il y a les classiques. Les classiques, ça veut dire qu'ils sont éternels. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça parle à toutes les époques. Après, il y a des bouquins qui connaissent que les érudits, puisque ce sont des bouquins d'époque. Parce qu'on n'a pas écrit que Molière à l'époque de Molière, et on n'a pas écrit que Racine, etc. Mais du coup, il n'y a que des spécialistes qui s'y intéressent parce que ce ne sont pas des classiques. Peut-être qu'à tort, quelques-uns, mais ça, c'est une autre affaire. Et moi, je disais à mes neveux, parce que je n'ai pas d'enfants, mais à mes neveux, je disais toujours, tu sais, un classique, si c'était chiant, ça ne se lirait plus. Voilà. Donc, c'est à toi de trouver le moyen de que ce ne soit pas chiant. Parce que si c'est chiant, c'est toi aussi qui ne sais pas le lire. Voilà. Il faut que c'est à toi de trouver là où c'est proche de toi. C'est dedans. Cherche.
Bien sûr. Comme un repas, hein, ou un mets. Si c'est pas très bien présenté, on se dit, ah, bah, c'est pas très bon. Et, alors que c'est juste la présentation qui...
On n'est pas obligé de mettre tous le pot-au-feu, ni le pied de porc.
Si. Un bon pot-au-feu. Je ne sais pas si c'est l'heure qui fait penser à des métaphores, culinaires.
L'heure,
c'est vrai que j'ai une petite faim.
On va rappeler que le spectacle s'appelle « Les 10 meilleures façons de rater Molière ». C'est au théâtre Pierre Tabar. C'est donc jusqu'au 27 janvier. Alors cette semaine, donc, c'est à 21h. Dimanche, c'est à 19h. Et la semaine prochaine...
C'est toujours à 19h.
Tout à 19h, ben voilà, tout à 19h.
La semaine prochaine, c'est mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est dimanche, point.
Je crois qu'il y a une relâche le 20...
jeudi.
C'est le jeudi, voilà.
Voilà.
Il y a une relâche, parce qu'on
veut... Nous, on a tellement aimé...
qu'on veut rater un jour aussi.
On a raté un jour.
Nous, on a tellement aimé qu'on a été le revoir. Donc,
merci beaucoup. C'est désopilant, il faut se retenir de rire. On peut...
On va faire une petite pause avant d'aborder le dernier plateau avec du Bobby Lapointe, tiens. La fleur bleue contondante.
C'était un catcheur des dimanches, tous les samedis il catchait, et les autres jours il se cachait dans les bois sous les branches. Et là, avec un dictionnaire, il faisait des vers solitaires, mais son esprit rugueux ne trouvait rien de mieux que de faire rimer printemps avec j'y rentre dedans ou bien j'y casse les dents. C'était trop percutant et tout honteux. Il disait, c'est affreux, j'ai une fleur bleue contondante, je ne la montre pas à qui veut, elle n'est pourtant pas méchante, ma petite fleur bleue, mais elle est contondante,
mais il est contondante. Allons, tant pis, allons, tant pis, tant pis. Un jour, un éditeur affable, comme il y en a depuis Ésope, le vit dans un café et hop, s'invita à sa table. Il se commanda une bière, il paraît que ça désaltère. Il prit le manuscrit et le lut sans broncher. Bien sûr, étant assis, il ne pouvait pas broncher, mais il poussait des cris comme si on l'écorchait. Et chaleureux, il lui dit: cher monsieur, tu as une fleur bleue contondante, je vais la montrer à qui veut. Corbleu, est-elle assez méchante, ta petite fleur bleue? Car elle est contondante, car elle est contondante. Allons, tant mieux, allons, tant mieux, tant mieux. Il devint un auteur célèbre, il était de tous les galas. Et les autres jours, ce gala cherchait au bout de ses lèvres des petits bouts de chansonnettes. Ça lui donnait mal à la jambe, car il frappait du pied pour battre la mesure. Et ses nouveaux souliers avaient une pointure un peu trop étriquée, qui étriquait son caquet. Et l'éditeur lui dit: ah, quel malheur, ta fleur bleue n'est plus contondante. Je sais, tu fais ce que tu peux, je ne voudrais pas être méchante, mais que veux-tu donc que je fasse de ta fleur pédante, qui n'est plus contondante? Allons, tant pis, allons, tant pis, tant pis. Il devint boxeur des dimanches, tous les samedis il boxait, et les autres jours il bossait comme coq-bois dans un ranch, pour se payer les manuels traitant de la poésie cruelle. Et la fille du libraire qui avait su lui plaire la menace en manière pour clore cette affaire devant monsieur le maire, pas plus tard qu'avant-hier. Et aux surprises, il lui dit entre deux bises: j'aurai une fleur bleue contondante, je vais te la montrer si tu veux. N'aie pas peur, elle n'est pas méchante, ma petite fleur bleue. Mais elle est contondante, mais elle est contondante. Allons, tant mieux, allons, tant mieux, tant mieux.
Et la petite fleur bleue contondante de Bobby Lapointe. Je vous rappelle que vous êtes sur Divergence FM, le 93.9, pour l'émission Vendredi Théâtre. Et nous abordons le dernier plateau de cette émission avec un spectacle qui s'appelle Léon Trempe, sous-titré Conférence clownesque, Qu'est-ce que l'amour ? Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Christophe Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez juste d'arriver, vous étiez dans les embouteillages. Oui. Je vous laisse un petit peu vous installer. Tito, toi, tu as vu deux fois le spectacle, tellement tu aimes.
Oui, 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 oui. D'ailleurs, je l'ai revu, entre autres, parce que...
Viens devant le micro, s'il te plaît.
D'abord, parce que j'avais envie d'y aller, parce qu'au départ, ce n'était même pas prévu, en fait, que tu passes à ce plateau. Donc, je le dis honnêtement, je suis allé parce que j'avais envie de le voir et de le revoir. Je voulais voir ce qui avait changé. Aussi, j'ai pas été déçu. Moi, j'aime beaucoup le spectacle, j'aime beaucoup ton travail. Je trouve que c'est très nécessaire. Moi qui, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, je ne suis pas un grand amateur de clown. Je ne suis pas du tout un amateur de stand-up. Et en fait, ce n'est pas du tout ça, même si c'est du clown, hein, mais c'est autre chose quand même. Mais cela dit, si c'était du clown, ça ne veut pas dire qu'il était mauvais. Hein. Chacun ses goûts, ce n'est pas la question. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est proche de nous. Tu vas au contact des gens, parfois même très fortement.
Et... Alors quel est le propos exactement pour qu'on puisse, pour les auditeurs, puissent se retrouver?
C'est très compliqué. C'est pas compliqué l'histoire. Hein. C'est quelqu'un qui va faire une conférence sur l'amour. Mais comme il n'y a pas grand chose à dire sur l'amour, il parle de plein de choses.
Il parle de beaucoup de choses. Bon, ça tourne évidemment autour de différentes formes peut-être d'amour. Mais surtout, ça tourne aussi, essentiellement autour de ses déboires amoureux. C'est un type qui est un déchu, quoi. C'est quelqu'un qui est déjà déchu, même s'il a moins l'apparence maintenant, si j'ai une sorte de recherche là-dessus. Donc, et puis qui a vécu des échecs amoureux et qui vient en parler. Enfin, le prétexte n'est qu'un prétexte. Et là, je préciserai sur le clown. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose à part, mais en fait, je me rends compte maintenant, il faut l'avouer, que je suis pas encore clown. Je fais un spectacle où je mets du clown. Je mets du clown dans mon spectacle. Parce qu'il faut il faut longtemps pour. J'ai commencé assez tard le clown, mais il faut longtemps pour faire un clown. Mmh. Donc moi je suis en apprentissage, je suis sur le chemin. Bon, ce qui compte c'est le chemin, c'est pas le but. Il faudra peut-être 30 ans, je serai. Comme dit Dallaire, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand un clown est génial, il est mort. Il est trop vieux, il est vieux quoi. Mmh. Bon, j'espère. Je vais mourir certes, mais.
pas tout de suite.
Je répète, c'est. C'est un sentiment personnel, ça ne veut pas dire que je considère que le clown c'est quelque chose de nul ou de mauvais. Au contraire, c'est extrêmement difficile comme et c'est un métier en plus. Oui. Ça c'est sûr que c'est un métier.
Ah mais je comprends très bien. C'est mon sentiment parce que évidemment j'ai toujours cette réflexion dans le prétexte. Qu'est-ce que je fais là? J'ai un prétexte qui est fort, c'est une conférence. Mais moi, ce que je souhaite, en fait, c'est le prétexte n'est qu'un prétexte au jeu. Alors, je cherche au fur et à mesure que je joue d'épurer ça, de finalement de le diminuer au maximum. Si je pouvais dire le maximum de choses avec le minimum de mots, j'aurais gagné. C'est ce que je souhaite, en fait. Voilà, le prétexte n'est qu'un prétexte au jeu. Moi, je suis sur scène pour jouer, pour être évidemment si on précise, parce qu'il y a toujours une petite pensée derrière, il y a celle qui est accessible et puis il y a ce que je veux dire peut-être, que je veux faire passer. Moi, pour moi je suis dans l'essence du clown, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut être aimé. Moi j'ai envie d'amour, hein. Tu l'as vu Tito, je demande que ça. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des éléments de scène qui tournent, qui démontrent j'ai envie d'amour. Je montre avec un cœur, parce que si les gens n'ont pas compris, je montre le cœur. C'est ça, je cherche ça. J'ai un peu de mal à le trouver, quoi.
Bon, alors, pour enchaîner sur ce que je disais tout à l'heure, justement, si tu es là ce matin, c'est parce qu'on a beaucoup aimé. Et qu'on aime beaucoup, et quand on a su, c'était pas prévu parce qu'on ne savait pas que ça allait être joué parce que tu es en remplacement là. Oui. Mais ça va se jouer donc cette mardi d'affilée.
Je suis un peu
là.
Bas avec le micro. Là. Je suis grand, alors il est un peu bas. ça se remonte.
scène du spectacle presque. et j'invite vraiment les gens parce que c'est quelque chose, c'est une expérience aussi. Hein. C'est une expérience personnelle pour les gens d'être là, parce que il y a un dialogue entre la scène et la salle, et c'est pas juste un dialogue comme ça, c'est vraiment quelque chose il y a un truc qui se passe entre nous, et il faut vraiment vivre ça. Il y a quelque chose du vécu aussi dans le spectacle.
Mais j'ai beaucoup travaillé cette relation au public, parce que c'est au départ, je peux vous le dire, c'est quelque chose, c'est très très difficile, mais si on n'a pas cette relation-là, pour le soliste, pour le soliste, c'est le partenaire. Et donc, un partenaire, c'est quelqu'un qui donne du jeu. Et la matière, elle est là. Alors, quand il y a peu de public, c'est plus difficile. Donc, ça fait aussi un spectacle extensible. Le spectacle peut durer très longtemps si l'interaction est forte, si je me sens bien, etc. Mais c'est de nourrir, quoi. C'est de nourrir comme ça. Alors, en partie, hein, parce qu'il y a cette nourriture intérieure qui est essentielle. C'est-à-dire que je suis parfois avec moi, et c'est bien de voir le clown travailler, le personnage travailler, on le regarde vivre, parce que c'est une sorte d'exposition. Et puis, il y a cette interaction. C'est cette envie d'aller, chez mes, comment on peut dire, c'est les personnes qui sont comme moi, hein, parce que n'importe quelle personne pourrait être sur scène. Évidemment, moi, je vis des choses extraordinaires, mais je suis quelqu'un de tout à fait commun, je dirais. Je suis comme tout le monde et je le montre. Je veux aussi être un peu comme le... Je veux être à la fois être... À la fois être comme tout le monde dans l'humanité, là, parce que j'ai ce besoin d'amour. Et puis aussi, j'essaie d'être le meilleur. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas bon, que j'étais pas bien, j'échouais tout. Je veux être un super conférencier. Je sais que j'y arriverai pas. Mais je fais tout pour y arriver. J'aimerais. Voilà, c'est ce qu'on on pourrait souvent traduire ce que fait le clown par des phrases comme ça qui ponctuent le spectacle. On pourrait dire « Oh, j'aimerais être musicien. Qu'est-ce que j'aimerais être musicien? Qu'est-ce que j'aimerais être conférencier? Qu'est-ce que j'aimerais être ci et cela et ça ?» Voilà.
C'est émouvant ce que vous dites.
Oui.
Mais c'est très émouvant le spectacle.
Oh, oui, il y a du sensible, oui.
Je vois que l'heure tourne. On va rappeler que le spectacle s'appelle « Léon Trempe », c'est au théâtre Pierre Tabart. Tous les mardis jusqu'au 5 mars, c'est à 21h, donc tous les mardis.
C'est ça.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est...
Florent, je voudrais rajouter quelque chose, parce que je suis en contact avec un grand clown aussi pour moi, hein. Quelqu'un qui a un très beau personnage et qui va venir au mois de juin à Pierre Tabart.
Oui.
C'est Stéphane Fitoussi. Donc il m'a fait un pitch de ce qu'il fait, mais c'est une sorte de le grand clown des Guingandais. Il a un aspect, il est très proche des Groucho Marx. Il a un physique, et il est dans la douceur et dans le sensible. C'est ce que m'a dit Damian. C'est proche un peu de mon travail. Il parle d'amour, hein. Il parle d'amour aussi.
Donc il sera au mois de juin.
Au mois de juin.
Ben, on le recevra à ce moment-là.
Bah,
on le recevra à ce moment-là, bien sûr.
Super.
Merci à toi de nous avoir accompagnés.
Merci
et
beaucoup.
Et puis on va se quitter avec une dame que j'aime bien, Marie Dubas. L'amour, c'est aussi les ruptures qui se passent mal. Marie Dubas, elle a choisi les stupéfiants pour se remettre et ça s'appelle le tango stupéfiant.
Après trois semaines entières de bonheur qui a rien altéré, mon amant dont j'étais si fier, triste ma tombe flaguée. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de friser de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins, alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive. J'ai fumé de l'eucalyptus. Dès lors, mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper le traître en petits morceaux, leur coller à la sécotine pour leur découper aussitôt. Mais je les mets en l'animal. Lui faire de mal, j'ai brisé de la naphtaline, les cheveux hagards, l'œil hérissé, je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines, j'ai brisé de la naphtaline.